Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, il est 6h30 à Paris, 5h30 à Kinshasa, 4h30, temps universel.
RFI Matin.
Et l'actualité africaine avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une ce matin, la MONUSCO qui fait le bilan.
La force de l'ONU en République démocratique du Congo en plein retrait, à la demande de Kinshasa. Hier, une cérémonie était organisée pour la fermeture de la base de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, le quartier général des opérations onusiennes dans la province. Dans ce journal également, le Kenya, au moins 5 personnes ont été tuées hier à Nairobi. La journée de manifestation contre le projet de loi de finances a pris un tour violent. Des manifestants ont pénétré dans l'enceinte du Parlement à Nairobi. L'armée a été déployée en renfort de la police. L'Afrique du Sud, le MK, le parti de l'ancien président Jacob Zuma, change de stratégie. Fini le boycott. Ses députés ont finalement prêté serment hier et entendent incarner l'opposition au président Ramaphosa. Et puis on vous expliquera pourquoi l'Union européenne n'arrive pas à se mettre d'accord sur la nomination d'un envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, et c'est notamment l'attitude à adopter envers le Rwanda qui est au centre des discussions. 22 ans de présence de l'ONU au Sud Kivu ont donc pris fin hier en République démocratique du Congo, conformément à la volonté exprimée par Kinshasa et en accord avec le calendrier négocié avec les Nations Unies. La MONUSCO a fermé son bureau de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, le quartier général de ses opérations dans la province hier. L'heure était donc à la transmission, puisque la MONUSCO a remis un don de ses actifs estimé à 10 millions de dollars américains aux autorités congolaises et à ses partenaires, ainsi que les clés d'un héliport nouvellement construit près d'Uvira. Sur place, William Bassimike.
Devant plusieurs centaines d'officiels congolais et des Nations Unies, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a vanté les bilans des 22 ans de présence de la mission onusienne au Sud Kivu.
Depuis 2002, la présence de la MONUSCO au Sud Kivu a permis d'assurer une protection physique directe à près de 3 millions de personnes. La MONUSCO a aidé à démobiliser plus de 4600 combattants et enfants associés à des groupes armés et a collecté et détruit plus de 44 000 munitions et explosifs. La mission a joué un rôle central dans de multiples cycles électoraux, transportant 30 000 kilos de matériel dans les circonscriptions électorales du Sud Kivu lors des élections présidentielles de l'année dernière.
La chef du gouvernement ne s'est pas exprimée, mais le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a tenu à rassurer les Congolais.
Le gouvernement assumera pleinement les activités autrefois exercées par la mission onusienne. Ces activités sont relevées et budgétisées dans la feuille de route provinciale dont la mise en œuvre débute le 1er juillet 2024 pour une année.
Selon les gouverneurs du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, cette feuille de route avoisine les 59 millions de dollars américains. Il faut à présent l'aval de la primature pour permettre les débuts des activités après le départ de la MONUSCO. William Bassimike, Bukavu, RFI.
La MONUSCO qui conserve pour l'heure 3 bases au Sud Kivu, à Mikenge, Minembwe et Uvira, des bases qui sont inactives et qui doivent être transférées aux autorités congolaises dans les semaines à venir. Ensuite, les prochaines étapes du retrait de la force de l'ONU concerneront les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, normalement avant la fin de l'année, mais là, aucun calendrier précis n'a encore été fixé. Dans le même temps, à Kinshasa, le procès des attaques du 19 mai dernier se poursuit. Le 19 mai dernier, assaut contre la résidence de Vital Kamerhe, puis le palais de la Nation à Kinshasa, considéré par les autorités congolaises comme une tentative de coup d'État. Hier, le tribunal militaire de Kinshasa s'est déclaré compétent pour juger la cinquantaine de civils qui sont poursuivis. Parmi eux, 3 Américains. Leurs avocats avaient demandé l'annulation des procès-verbaux d'audition, car leurs clients avaient été interrogés en français et sans interprète. Requête rejetée. La RDC, dont le président est rentré hier de 2 jours passés au Tchad, Félix Tshisekedi, décoré par les autorités tchadiennes pour son rôle de médiation dans la transition de N'Djamena. C'est lui notamment qui avait œuvré pour faire revenir au Tchad l'opposant Succès Masra. Et si la période de transition a pris fin officiellement avec l'élection de Mahamat Idriss Déby à la tête de l'État, les équipes du président congolais sont encore à pied d'œuvre, notamment pour trouver des financements en vue des prochaines élections législatives. Et en tout cas, à l'heure du bilan de ces 2 jours de visite, des accords ont été signés, notamment sur l'exemption de visa réciproque pour les citoyens des deux pays. Et l'opposition tchadienne, elle, est réservée. N'Djamena Carole Valade.
Les honneurs au président Tshisekedi font grincer des dents parmi l'opposition tchadienne qui considère Mahamat Debi comme le seul gagnant de ses efforts diplomatiques. Je cite « Entériner l'impunité, se taire sur la mort de Yahya Diallo, puis valider une élection frauduleuse et tout sauf une réussite » selon l'opposant Max Kemkoy qui dit « ne plus rien attendre de la facilitation congolaise ». Cette dernière n'a pourtant pas terminé son travail, elle ne s'achèvera que lorsque toutes les institutions seront en place, rappelle le ministre congolais Didier Mazenga, l'un des principaux artisans de cette facilitation, qui, accompagné du président de l'agence électorale tchadienne, Ahmed Bachiré, et du ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, mène actuellement une grande levée de fonds régionale de Luanda à Malabo, en passant par Libreville, Brazzaville et Yaoundé, dans le but de financer les prochaines élections législatives au Tchad, qui devraient se tenir en octobre, au plus tard, selon le ministre Mazenga. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Et la situation de l'Est congolais et plus généralement celle de toute la région des Grands Lacs a été évoquée en ce début de semaine au Luxembourg. Réunion avant-hier des ministres des Affaires de l'Union européenne. Les 27 souhaitent en fait nommer un envoyé spécial pour la région, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom. Précision et explication avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazé.
Les Européens ont, je cite, une conscience partagée de ce que l'influence rwandaise, largement documentée, pose un problème de souveraineté et d'intégrité territoriale pour la République démocratique du Congo. Dès février 2023, les 27 avaient décidé de nommer un envoyé spécial pour les Grands Lacs, avec mandat sur Burundi, Rwanda, Ouganda et Est du Congo. C'est le diplomate belge Bernard Quintin qui a été sélectionné, mais ce directeur général adjoint pour l'Afrique, au sein de la diplomatie européenne, n'a finalement pas été nommé lundi, suite à des pressions rwandaises, alors que la nomination était encore censée être confidentielle. En cause, les visions opposées au sein de l'Union. Il y a d'un côté ceux qui estiment, comme la Belgique, que le Rwanda doit être traité sans indulgence, comme tous les autres partenaires de l'Europe. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent ménager ce pays, vu comme la réussite, le miracle africain. Et cette vision est très présente au sein du cabinet de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE. Et c'est de là qu'aurait pu venir l'information confidentielle de la nomination d'un diplomate belge. Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
RFI 7h37 à Nairobi, au Kenya, l'Union africaine, les Nations unies, ainsi qu'une dizaine de pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France ou encore le Royaume-Uni, tous disent leurs préoccupations ou leurs inquiétudes après la répression de la journée de manifestation d'hier au Kenya, dans les grandes villes du pays et en particulier la capitale, Nairobi, où au moins 5 manifestants ont été tués, plusieurs dizaines d'autres blessés, après que l'armée a été déployée dans les rues de la ville en renfort de la police. Que des manifestants opposés à de nouvelles taxes étudiées en ce moment par les députés ont réussi un moment à pénétrer dans l'enceinte du Parlement et que le bureau du gouverneur de Nairobi a connu un début d'incendie. Dans la soirée, le président kényan William Ruto a pris la parole pour déplorer les pertes en vie humaine et les dégradations, mais il s'est surtout engagé à mettre un terme à la violence et à l'anarchie.
It is not in order.
Il n'est pas normal ni même concevable que des criminels se faisant passer pour des manifestants pacifiques puissent faire régner la terreur contre le peuple, ses représentants élus et les institutions établies par notre Constitution et s'attendent ensuite à ne pas être inquiétés. J'ai demandé à toutes les directions nationales de notre sécurité de déployer des mesures appropriées à l'encontre des criminels qui mine la sécurité et la stabilité de notre pays. Le gouvernement utilisera pleinement son mandat constitutionnel pour protéger notre nation et son développement. Il traitera toutes les menaces à la sécurité nationale et à l'intégrité de notre État comme un danger existentiel contre notre République.
William Ruto, le président du Kenya, des propos recueillis par Kaoru Magasa. Et l'autre actualité concernant le Kenya, c'est l'arrivée hier en Haïti des premiers policiers déployés dans le cadre d'une force internationale de sécurisation de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, annoncée comme étant 400. Ils étaient en fait 200 sur un total de 1000 attendus à terme. Dans l'actualité des pays africains, également ce matin, la Cour pénale internationale qui doit rendre son verdict aujourd'hui dans le procès Alassane, cet ancien chef de la police des mœurs de Tombouctou au Mali, au moment de l'occupation du nord du pays par les groupes djihadistes en 2012 et 2013. Alassane qui est jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont des actes de torture, des viols, de l'esclavage sexuel ou encore la destruction de mausolées. Enfin, en Afrique du Sud, alors que des négociations sont toujours en cours en ce moment pour la formation d'un gouvernement de coalition, les députés du parti de Jacob Zuma, l'ex-président sud-africain, en froid avec l'ANC, son ancien parti. Ces députés, donc, rentrent dans le rang de l'opposition, entre guillemets, classique. Après avoir boycotté la cérémonie d'investiture de la nouvelle Assemblée nationale et la réélection de Cyril Ramaphosa à la tête de l'État, les élus ont finalement prêté serment hier et ils ont bien l'intention de faire entendre leur voix. Correspondance de Romain Chanson.
Figure des réseaux sociaux, Doudou Zile Zuma, la fille de l'ancien président Jacob Zuma, fait son entrée dans l'arène politique. Elle rejoint l'ancien juge John Kloppé, ce juge controversé qui fut le premier de l'histoire à être destitué par l'Assemblée nationale. Le voilà devenu parlementaire. Alors que le parti MK veut la suppression de la Constitution, ses députés ont juré de respecter et d'être fidèles à la loi suprême. « Nous ne sommes pas des hooligans », a déclaré John Kloppé, qui devient le chef de l'opposition. Le MK devrait s'associer avec d'autres partis, dont les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, pour occuper 100 sièges, c'est peu face à la coalition gouvernementale des 10 partis qui est en train de se former et qui rassemble plus des 2/3 des 400 sièges. Mais cette coalition n'a toujours pas formé de gouvernement, une semaine après l'inauguration du président Cyril Ramaphosa, un signe de fragilité que ses opposants guettent avec intérêt. Ils espèrent que ce gouvernement d'union nationale, un alliage hétéroclite et inédit, s'effondrera rapidement. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Et pour toute l'actualité du continent, rendez-vous sur afrique.rfi.fr et sur nos comptes RFI Afrique, sur X et sur Facebook. À Johannesburg, comme ici à Paris, il est maintenant 6h42 et vous êtes avec Arnaud Pontus.
Merci Xavier Besson, à tout à l'heure. À suivre dans les toutes prochaines minutes, reportage au Gabon, Libreville.